Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous pour cet autre élément. Et il est déjà en train de pogner les nerfs, le show est même pas commencé. Luc Desormeaux est avec nous. Salut Luc!
Comment ça je pogne les nerfs?
Ah écoute, t'étais fâché après moi.
On attend que tu commences pour partir le show, puis on dit rien, puis tu commences pas. À un moment donné, il faut que ça parte.
Et
petite affaire.
Et pour nous accompagner cette semaine avec nous, Daniel Carosella, qui a pensé proche de pas être là, histoire de char, à Montréal. Salut Daniel.
Oui, méchante tempête, et quand il y a une tempête, ben soudainement, le monde ne savent plus conduire. Hein.
Ah, ça c'est typiquement grande ville.
Écoute, ceux qui étaient sur Turcot ce soir dans la tempête, sachez que je partage votre frustration.
Sachez-le.
Je vous comprends. Je vous comprends totalement. Et ça se peut que je vous aie fait un certain doigt d'honneur si vous m'avez coupé aussi.
Prenez-le pas personnel, là. C'est...
Ben, vous pouvez, oui.
Puis pour vous replacer dans le temps, ce soir, c'est mercredi.
Le 5. Ouais.
Ouais. Qu'on espère la dernière tempête, mais qu'il sera pas.
Ben non, il va en avoir d'autres. Voyons donc, Daniel. Ce sera bien
toujours
trop
une
fun.
Tempête au mois de mars.
Tatoué.
toujours.
Écoute, même l'été, je trouve ça tannant. Pour ne pas utiliser un autre terme, le trafic à Montréal, c'est pas pour moi et je suis content d'habiter en région. Vraiment
ben,
content.
L'été, c'est pas si pire. C'est parce que là, tu sais, quand il y a des tempêtes, c'est parce que tu pognes beaucoup de choses. Tu pognes le monde qui ne savent pas conduire, le monde qui te coupe, le monde qui pense qu'il conduit sur une route sèche. Puis là, c'est la neige, les routes glissantes. Fait que bref, c'est tout un melting pot pour me faire monter ma pression artérielle.
Et là, dans l'émission d'aujourd'hui, ceci n'est pas un des fails qu'on va aborder en entrée de jeu. Daniel, t'en as un pour nous. Un fail, et ça consiste en Metal Gear Solid. Le 5 qui est sous-nommé Ground Zero, comme s'il n'y avait pas déjà assez de titres et de mots dans ce nom-là, qui a une durée de vie minime.
Ben, en fait, Ground Zero, c'est le prologue Phantom Pain. Juste pour remettre les gens en contexte.
Ben oui, non, c'est ça, c'était pas déjà assez mêlant, tu sais.
C'est ridicule. En tout cas, quand j'ai vu ça cette semaine, là, j'étais, on va prendre l'expression québécoise, en bourgeois le vert, pour ne pas dire en un mot qui commence par T.
Parce en que tabouère.
Ouais, c'est ça, en tabouère, mais plus façon église.
OK.
C'est parce que je trouve qu'on nous prend... Il y a des limites à nous prendre pour des épais, tu sais. Juste pour vous dire...
non, il n'y a aucune limite.
En tout cas, moi, je me l'impose, cette limite-là. Juste pour vous dire, Game Informer, en fait, a sorti une nouvelle comme quoi Ground Zero, qui, oui, est un prologue, là, OK, on s'entend là-dessus, dure 2 heures. Donc... Si vous l'achetez en format téléchargeable, il va vous coûter à peu près 20$. Puis si vous l'achetez en format physique, il va vous coûter 35-40$. En tout cas, on le sait que dans un certain magasin, ils ont augmenté les prix de 5$. Donc, il va vous coûter 40$ si vous allez dans ce magasin-là, que je ne nommerai pas. Mais 2 heures pour un prologue, je veux bien croire que c'est un prologue, là, mais moi, payer 35$, parce que j'aime ça avoir mes copies physiques, pour 2 heures de jeu, puis connaissant Hideo Kojima, il doit avoir à peu près 1h45 de cinématique là-dedans, je trouve que c'est prendre le monde pour des épais, tu sais.
Voyons tant donc, qu'à... Daniel, voyons, arrête, là.
Attends, là, je suis en train de me pomper.
Ça s'en va, là, vers là, là. C'est la norme. C'est la norme en devenir. On n'est juste pas encore rendu là comme norme. Ça viendra. Ne t'inquiète pas, Daniel.
Mais le jour où ce sera... je pense que je couvrirai plus les jeux parce que je sais pas, je vais peut-être me suicider. Mais ça,
trouver d'autres hobbies, hein?
Ouais, absolument. Mais non, mais c'est parce que je me dis tant qu'à vendre un prologue comme ça qui dure 2 heures, pourquoi puis fourrer le monde en même temps à savoir qu'est-ce qui est le prologue, qu'est-ce qui est le jeu final, pourquoi tu fais pas juste un jeu complet, mets les 2 heures de contenu dans le jeu final, puis offre-nous juste un seul Metal Gear Solid 5 complet, puis tout le monde va être heureux. Mais non, on préfère vendre deux jeux, un à 35-40$, puis l'autre évidemment à 60$ pour maximiser le profit. Moi, je trouve que Hideo Kojima, depuis une couple d'années, ben, en fait, depuis le succès qu'a été Metal Gear Solid, se prend clairement pour un autre et vit un peu sur son île où il pense qu'il peut tout faire, puis que le monde va être à ses pieds, puis il va embarquer dans n'importe quel de ses projets.
Moi, ce que j'aime, Daniel, c'est que ton chat est déjà prêt à manifester, pancarte à la main. Il sort dans la rue tantôt, puis il va aller faire exploser des boîtes à mal.
Ça, je pense pas. Je m'excuse.
J'ai eu la même pensée.
Non, en fait, mon chat manifeste plutôt pour avoir sa pâtée.
Ou pour que tu joues à Mario.
Non, il manifeste pour sa pâtée. Ça, je peux te l'assurer. Mais, bon, désolé si ça vous a déconcentré dans mon argumentaire, mais bref, pour faire ça court, je trouve ça épais, je trouve que c'est de nous prendre pour des caves, puis j'espère en tout cas que Ground Zero va se planter avec cette durée de vie-là qui est vraiment ridicule. Ça a l'air que l'émission secondaire ajoute un peu de durée de vie.
Ben oui.
Ben certainement. Mais juste pour vous dire, là, Game Informer a fait ce qu'on appelle un speedrun, donc le plus rapidement possible à la quête principale, et ça a duré 5 minutes.
écoute, j'en ris, là, parce que moi je l'achèterais pas, mais... Ah, c'est pathétique, c'est l'enfer.
C'est un bon investissement.
Ben oui.
Ouais. Ben, tu sais, si jamais vous avez 40$ à perdre, moi je suis preneur, tu sais. Surtout que je viens d'acheter une propriété, donc j'ai besoin de liquide, donc vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème.
Pour 35$, Daniel vous divertira pendant 2 heures. Soit l'équivalent de Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Il fera des stepettes, des mimes et peut-être des animaux en balloon.
Ah, oh, des câlins aussi.
Des câlins. Tu sais, plein d'affaires de même.
Non, t'es rendu que tu prends la place à Ian Richards, tu t'en vas mimer des scènes de Mass Effect chez le monde, quoi. Sauf là, ça va être du Metal Gear Solid.
Il peut mimer Metal Gear Solid 5 Ground Zero en temps réel.
Ouais, c'est quand même une job moins paye que faire Mass Effect, je comprends. La longueur est plus courte, mettons.
Je peux me cacher en dessous d'une boîte, là, pour faire Metal Gear Solid, si vous voulez.
Hey, moi aussi, j'ai un petit fail cette semaine. Daniel, tu nous avais parlé il y a quelques temps de la Xbox One plaquée or qui était en vente. Je sais pas, de mémoire, te souviens-tu le prix que qui était demandé?
C'était 10 000 livres.
10 000 livres, donc une coupe de piastres canadiennes. Eh bien, sachez que j'ai trouvé quelque chose encore mieux. Du plaqué or en plastique. Faux plastique, du plastique, là, un peu comme la cassette de Zelda à la NES, donc un beau fini couleur argentée, en fait doré, sur la NES. Une cassette qui a été trouvée preneur dernièrement sur eBay. Je vais vous expliquer un petit peu. Nintendo, en 1990, pour mousser son arrivée en Amérique du Nord, a décidé de faire une compétition qui se nommait le Nintendo World Championship aux États-Unis. Parce que tout le monde sait que, un peu comme le baseball majeur, si un sport n'est pratiqué que dans un seul pays, il peut être mondial si c'est aux États-Unis. Cette compétition-là, en 1990, regroupait des gens de 3 tranches d'âge. Les moins de 11 ans, les 17 à 12 et les 18 ans et plus de plusieurs grandes villes des États-Unis. Et au final, il y avait 90 participants et un gagnant par catégorie remportait un prix de 10 000 $ américains. La compétition consistait à jouer à Mario Bros., à Rad Racer et à Tetris. Dans un temps imparti, on avait 6 minutes 21 secondes de jeu. On devait passer à travers X nombre de tableaux dans Mario. Même chose dans Rad Racer et dans Tetris. T'avais tout le temps que tu te restais et t'avais un score là, qui était cumulé. Soit les points dans Mario, x 10 dans Rad Racer et x 25 dans Tetris. Donc, fallait se dépêcher. Et les gagnants se sont mérités 10 000 $ en prix. Chacun des 90 participants ramassait une cassette comprenant l'édition spéciale de ces jeux-là. Donc, une cassette qui se jouait en 6 minutes 21 secondes. Tu ne veux pas jouer plus que ça, tu recommençais. C'était ça, la cassette. C'était avec le chrono intégré. Et s'ajoute à ça, donc 90 spécimens de cette cassette-là, déjà ça en fait quelque chose d'extrêmement rare. Mais on a aussi, dans le cadre d'un concours on the side, sur le côté. Rajoutez 26 copies de ce jeu-là, mais en version gold, un petit peu comme la cartouche de La Légende de Zelda. Et une de ces cartouches-là a été vendue sur eBay cette semaine au coût astronomique de 100 000 $. Mais de trouver preneur après. Et là, vous allez vous dire, ben oui, c'est donc bien exagéré. C'est quelqu'un qui a fait une folie. Oui, il y a une personne qui a fait une folie, mais il y a d'autres gens qui étaient prêts à faire cette folie-là. Il y a pas moins de 71 personnes qui ont misé sur cette vente-là sur eBay. La mise de base était à 5 000 $ et elle s'est vendue donc au final à 100 088 $.
Je me demande, j'ai un peu de misère à comprendre ça, tu sais. Je sais que c'est un objet de collection. Ça, je le sais, je suis au courant. Mais, je veux dire, ça te donne quoi d'avoir un objet de collection à 100 000 piastres? Tu vas le revendre? Je sais pas, c'est pas un investissement, on s'entend.
Ben, ça dépend. Un investissement, oui et non. Si tu la conserves en bon état pendant 10 ans, dans 10 ans, si là c'est vendu 100 000, dans 10 ans, peut-être qu'elle va se vendre 200 000, t'auras donc fait 50 % de profit. Mais si t'es un collectionneur et ton but c'est de la conserver, ta collection, jusqu'à ce que tu meurs, non, il n'y a pas d'intérêt, à part le fait de posséder quelque chose que personne d'autre a, tu sais.
Ouais.
Puis en plus, elle est même pas belle. Je vous mettrai le lien, là. Elle est vraiment laide. Il n'y a même pas de sticker pour la présenter. Elle est juste dorée, puis il n'y a rien d'autre. Il y a même un trou dedans pour aller changer des paramètres sur une chip qu'il y a dans la cartouche, là. C'est assez particulier. C'est même pas beau comme objet de collection, sauf le fait que il y en a 26 dans le monde et on ne sait pas exactement le nombre qui reste pour vrai, qui sont encore en état, là, qui sont encore trouvables dans le monde.
Mais je m'excuse, c'est mon nombre de socialistes là, qui va parler, là, mais je veux dire, quand tu as 100 000 piastres à mettre sur une cartouche de NES, là, peu importe sa rareté, là, mais whatever, tu as 100 000 piastres à mettre sur un jeu, puis tu penses qu'il y a des familles qui en arrachent, puis qui les deux travaillent, puis ils sont pas capables d'arriver, puis ils ont la misère à joindre les deux bouts, puis les fins de mois sont dures, puis ils se privent des fois de manger. Tabarnouche.
Ouais, mais rendu là, Daniel, moi, j'ai toujours la pensée de, ouais, mais tu sais, ces deux personnes-là, là, qui en arrachent, qui ont de la misère à arriver à la fin du mois, là, ben, ils sont quand même mieux que le monde en Afrique. Fait que ce monde-là qui en arrache en Amérique du Nord devrait se ramasser plus pauvre encore pour pouvoir donner de l'argent aux Africains. Tu sais, c'est parce que, dans le sens que tu vas toujours trouver plus pauvre, pire que toi, dans la vie. Il y a toujours quelqu'un de pire. À un moment donné, on peut bien dire, oh, au Québec, on met trop d'argent dans le système de santé ou telle affaire. Réglons des vrais problèmes, réglons telle affaire. Mais ben, finalement, le Québec est quand même un endroit où est-ce que, oui, il y a des problèmes, mais c'est des problèmes de luxe alors qu'il y a des places où est-ce qu'il y a des problèmes d'ordre tellement plus importants. À un moment donné, si tu peux pas te regarder le nombril puis dire, oh, il m'arrive des affaires plates, tu pourras pas le faire avec rien, il est toujours pire à quelque part. Là.
Ah, c'est sûr, mais je trouve juste tellement les inégalités. Tu sais, je veux dire, on est tous pareils à la base, on est tous des êtres humains, on va aux toilettes et on mange, en tout cas, on essaye de manger à tous les jours. Puis je me dis, en tout cas, les inégalités entre les classes, je trouve que plus ça va, pire c'est. Puis je me dis, t'as des riches qui sont capables de se payer une cartouche à 100 000 piastres, puis t'en as d'autres qui sont pas capables de se payer une épicerie par deux semaines. T'sais.
Ouais, mais il a travaillé probablement pour ramasser cet argent-là. Il fait rouler l'économie, puis l'argent va revenir des poches de quelqu'un d'autre éventuellement.
C'est encore drôle. En tout cas, ouais, whatever.
C'est encore drôle.
On s'étendra pas sur le sujet.
Ouais, on n'est pas des économistes, OK?
Non.
De toute façon, quand nous autres, on se paye du luxe, on joue à des jeux vidéo, puis on écoute des films. On devrait tout donner aux pauvres.
Ben, moi, je trouve que je donne déjà assez en état avec toi à peu près 2 heures par semaine.
Merci, c'est vraiment gentil. La société te remercie.
C'est des neurones qu'on perd, nous autres.
Oui.
tu peux pas quantifier ça en argent.
Non. Allons-y avec notre premier sujet de la semaine, en dehors des fails. Luc, vu que toi, t'étais fin jusqu'à maintenant, ou presque.
Mais oui, je viens de te planter.
Oui, non, je sais. C'était moins pire que Daniel. Bon.
Ah, OK.
On va y aller, on va y aller avec toi. Tu vas nous parler de Halo Spartan Assault que tu as joué sur la Xbox 360. Ça donne bien. C'est pas mal. Juste sur les consoles de Microsoft que c'est disponible.
Ben, pas mal, c'est juste les consoles de Microsoft. Originalement, Spartan Assault, c'est un jeu qui est sorti sur Windows 8 et toutes les quand c'est Apple, je dis les high patentes.
Ouais, les périphériques.
Mais là, les Win patentes, fait que Microsoft sur Windows 8, sur PC, sur le Windows Phone, puis sur la tablette aussi. Vous pouvez jouer à Halo Spartan Assault. Microsoft a décidé que ça serait peut-être une bonne idée de sortir aussi sur les consoles. Donc, c'est disponible sur Xbox 360 et sur Xbox One pour un prix modique de 14,99. Donc, c'est quoi Halo Spartan Assault? C'est un jeu dans... Le titre le dit, dans l'univers de Halo. C'est créé par 343 Industries, dont ceux qui ont pris la relève pour la série Halo, et aussi de Vanguard Entertainment, puis c'est distribué par Microsoft Studio. C'est un jeu, comme je disais, c'est dans l'univers d'Halo, sauf qu'au lieu d'être un first-person shooter, comme on connaît Halo, ça a toujours été un first-person shooter. Ou, c'est sûr, il y a eu Halo Wars, qui était un jeu à la Command & Conquer. Mais là, on voit nos personnages du haut. Donc, c'est une vue isométrique. Donc, c'est du haut, mais un peu penché vers vous. Donc, ça a un angle. Puis, on contrôle notre personnage comme ça. Donc, on joue des Spartans. Un peu comme Master Chief, mais on ne joue pas Master Chief, on joue d'autres Spartans. Et puis, on change de mission en mission. Bon, il y a environ une trentaine de missions sur différentes planètes. L'histoire se passe entre Halo 3 et Halo 4. Donc, c'est en 2553. Donc, si on regarde ça, là, d'ici à peu près 1000 ans, on devrait avoir 1300 ans, 400 ans, on devrait voir les Covenants nous attaquer tranquillement. On va-tu être là? Je pense pas. Donc, on joue en vision isométrique. Donc, sur le dessus, les contrôles sont assez bien. On contrôle notre personnage où il va avec un des joysticks. Celui de gauche, celui de droite, on contrôle où il tire. Puis, on tire avec la gâchette. C'est assez simple. On peut changer d'arme. Avant de commencer des missions, c'est un peu un des choses que j'aime moins du jeu, mais bon, c'est rendu une mode. Avant de commencer l'émission, on peut, comme des raisons, choisir comment qu'on veut s'armer. On a notre fusil de base qu'on peut changer pour d'autres choses. On a aussi une arme une seconde arme qu'on peut changer. Normalement, c'est un petit tire-poids, un petit fusil à main. Après ça, on peut prendre un fusil de sniper. On a d'autres armes aussi, mais faut acheter ces armes-là avec des crédits. J'ai joué, j'ai pas vraiment été dans la profondeur de l'achetage d'armes parce que moi je pars avec mes armes de base, puis à date je suis capable de faire les missions, fait que je me casse pas la tête nécessairement avec ça.
Tu gardes ton cash.
Mais on peut acheter de l'argent avec de l'argent. Donc on peut acheter de l'argent dans le jeu avec de la vraie argent, donc ça part à 4$ pour un petit peu d'argent dans le jeu, à 15$ pour un petit peu d'argent dans le jeu. Donc on peut payer autant que le jeu pour avoir de l'argent dans le jeu. Mais je vous dis tout de suite, à date, je suis rendu peut-être à moitié du jeu. Puis j'ai pas eu de besoin d'avoir des armes spéciales que j'aurais achetées avec de l'argent. Donc, ça se fait très bien avec les armes qu'ils nous donnent carrément en commençant le jeu. Donc, ça fait qu'on passe différentes missions. On a des missions où on a des coéquipiers avec nous. Ils vont nous aider à tuer les Covenants. Puis c'est bien, sont pas statiques, sont pas un peu comme ceux qui ont joué à Halo Reach, où pendant que toi tu tuais tout le monde, on dirait que les autres s'étaient commandé une pizza autour d'une roche puis attendaient que la pizza arrive. Ça foutait rien, fait que c'est toi qui se faisais tout le temps canarder, puis on dirait que les Covenants savaient que les autres, c'était comme pas bien ben grave, fait qu'ils s'en venaient tous vers toi. Dans ce jeu-là, ils t'aident vraiment. Si tu te caches et tu ne fais pas grand-chose, ils vont aller pour tuer les ennemis qui s'en viennent t'attaquer. Donc, des fois, on peut sauver notre peau. C'est dans le même principe que dans les autres Halo. On se fait trop toucher, notre armure descend. À un moment donné, ça clignote rouge pour nous dire « Regarde, bientôt, tu vas mourir si tu continues à prendre des balles. » Si on se cache un peu, notre shield ou notre...
notre guérison, notre santé.
Moi, c'est ça, on devient plus fort, mais c'est notre. C'est ça. J'ai de la misère à traduire le mot shield.
L'art de chercher un mot, hein?
Moi, c'est ça, l'art de chercher un mot. Fait que ça, on se guérit, on revient, notre shield revient, puis on est capable de s'en aller puis tirer d'autres ennemis.
Notre armure,
c'est ça.
Voilà.
Ben, c'est pas vraiment une armure, c'est un...
Ah, je t'avais trouvé un mot,
c'est
là!
C'est correct. Fait qu'on se promène, on notre cherche protection. Les ennemis. On va s'en aller, puis on va faire le tour de la carte. À un moment donné, quand on commence à jouer au jeu, on se dit, OK, ils vont me faire vider telle partie de la carte, puis alentour de... où on peut se promener, il y a comme un champ de force bleu. Puis, à un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais tuer tous les ennemis dans la zone, ils vont baisser le champ de force, mais on pourra aller plus loin. Non. Le théâtre d'opération est à l'intérieur de ce champ de force bleu-là. Vous n'aurez jamais à sortir du champ de force. Votre mission se passe à l'intérieur de ce champ de force bleu-là, qui est comme la zone d'opération. Il y a des arbres, il y a tout ça. Les covenants vont se cacher. C'est quand même bien fait parce que des fois, on a l'impression que c'est un arbre puis il n'y a pas vraiment rien. Mais non, c'est un covenant qui est caché avec un bouclier. Puis quand tu arrives proche, il se lève puis il commence à te tirer dessus. Les ennemis sont pas nécessairement cons. Ils vont aller se cacher pour pas se faire tirer. Des fois, ils sont cons puis ils vont venir se mettre en avant de toi. Mais c'est normalement, ils sont capables d'aller se cacher puis de te tirer. Il y a beaucoup d'ennemis qu'on retrouve dans l'univers d'Halo. Les petits grunts qui sont faciles à tuer en allant jusqu'aux plus gros, qui sont vraiment plus difficiles, qui ont eux autres aussi des boucliers d'énergie pour se protéger et tout ça. Il faut tirer une couple de fois pour réussir à les avoir. On va changer de planète. Il y a comme 5 missions par planète. Après ça, on change de planète. Entre chaque mission, on a une cinématique super bien faite, un peu comme les jeux Halo, qui va nous expliquer c'est quoi. Ce qui se passe vraiment dans le jeu Halo Spartan Assault, c'est qu'on revit des missions qui ont été faites, qui se sont passées entre Halo 3 puis Halo 4. Donc, c'est vraiment comme si on regardait des registres de bataille qui ont été mis dans un ordinateur, mais au lieu de juste regarder l'histoire, on la vit. Puis on se dit, bon, on va voir comment ça s'est passé. On vous lance dans la mission, puis tu t'en vas, puis tu fais ta mission. Fait que la manière que ça s'est passé dans les livres d'histoire, c'est de la manière que tu as fait. C'est facile à prendre en main. Les commandes, au début, on cherche un peu, mais un coup qu'on a maîtrisé un peu le marché, le tourner fusil, puis tirer, puis viser, ça se fait vraiment très bien. On peut ramasser des armes de Covenant, pareil comme dans les autres Halo. C'est-à-dire, on arrive, on n'a plus de balles, on peut ramasser un fusil laser Covenant ou n'importe quelle arme Covenant qui a été échappée par un ennemi qu'on a trucidé. On peut trouver aussi des caches d'armes. On peut ramasser des armes dans des espèces de racks d'armes qui sont dans les bases Covenant. Fait qu'on peut ramasser une arme, puis après ça, ramasser des balles. Puis on peut revenir ramasser d'autres balles. Il y a toujours j'ai toujours trouvé des balles dans des espèces de caches. Je sais jamais, tu le ramasses une fois, puis il n'y en a plus. T'sais, fait que si tu sais où la cache d'armes, tu peux prendre des balles dans la cache d'armes, t'en aller, tirer des ennemis, revenir, ramasser des balles, retourner.
Des générateurs d'armement, là.
Ouais, c'est ça. Ben, la cache est pleine, mettons, de chargeurs de balles, puis tu peux juste en ramasser tant à fois, mais tu peux revenir et te servir. C'est comme un buffet chinois d'armes Covenant, mettons. Puis, fait qu'on s'en va, on tire des ennemis, on peut revenir. On peut utiliser des tourelles. Il y a dans certaines bases, il y a des grosses tourelles où on peut vraiment canarder incroyablement rapidement des Covenants qui arrivent. On peut aussi, si on tire trop, la tourelle vient trop chaude, elle arrête, elle se refroidit, puis on peut recommencer à tirer. Donc, il faut jauger comment est-ce qu'on tire. Des fois, il faut y aller par petite salve au lieu d'y aller, puis toujours garder le bouton enfoncé. On peut utiliser des véhicules. Il y a les véhicules Covenant qu'on peut ramasser. À un moment donné, on conduit aussi les gros scorpions, les tanks scorpions de l'UNSC. On peut les conduire, tourner les tourelles, tirer le canon, puis tirer aussi de la mitraillette. Ça prend un peu de tact pour le contrôler, parce que c'est la même chose, c'est que les chenilles s'en vont d'un sens, le canon s'en va de l'autre, puis à un moment donné, on dirait que ça... Si tu pointes pas vers la bonne place, un veut aller d'un bord, l'autre veut aller de l'autre, tu vas pas vraiment où ce que tu veux. Ça se conduit pas comme une auto, mettons. Fait que c'est un petit peu à apprendre, mais c'est tellement gratifiant quand tu prends ces gros canons-là, parce qu'il y a pas grand-chose qui te survit. Tu tires du gros canon dans un véhicule Covenant, ça prend pas trop de coups avant que ça se fasse décapiter en morceaux, mais c'est amusant. Donc, on peut jouer seul, on peut jouer en coop. C'est un jeu qui... Bon, comme je disais, il y a une trentaine de missions. Les missions durent à peu près 7, 8, 10 minutes chaque, dépendant comment on prend notre temps pour aller chercher. Il y a des crânes à trouver aussi dans le jeu, selon ce que j'ai vu. Moi, j'en ai pas trouvé. Mais je voulais passer à travers l'histoire pour voir un peu ce que ça avait l'air. J'ai pas passé le temps de chercher puis tout trouver, mais on peut trouver des crânes un peu comme on trouvait dans les jeux d'Halo.
Ouais, un peu comme les plumes d'Assassin's Creed, ça fait la même là.
C'est ça, mais on peut ramasser ça.
Mais dis-moi, Luc, est-ce que le jeu te donne le goût d'aller les trouver? Est-ce que là, tu as traversé l'histoire, tu voulais savoir qu'est-ce qui se passait, mais est-ce que tu auras éventuellement le goût d'aller chercher ces fameux crânes-là ou c'est pas assez intéressant?
Ben, c'est un peu, c'est toujours des choses que je me demande vraiment, c'est quoi le but dans le fin fond. Mais c'est sûr que c'est un jeu que je vais terminer, je vais continuer à le jouer même si ma critique est finie, parce que je le trouve intéressant, il est le fun à jouer. Chercher, oui, surtout que quand tu finis une mission, il y a des missions, quand tu finis la mission, c'est fini. Tu tues le dernier ennemi, la mission est finie, fait que si tu veux trouver ton ou tes crânes dans le niveau, cherche-les avant de tuer ton dernier ennemi. OK? Mm-hmm. Il y a d'autres missions. Il y a une mission où, puis ça, c'est le seul bug que j'ai vu dans le jeu. Il y a une mission à un moment donné où tu es dans une base. Puis le but, c'est garde la base puis reste en vie jusqu'à temps que l'avion Pélican vienne vous chercher pour vous en aller. Fait que je suis là, je canarde. Il arrive des ennemis, Puis à un moment donné, le Pélican arrive, se pose, puis là, c'est marqué en gros: embarquez dans le Pélican, vous en allez. Je monte où sur la plateforme? Il n'y a pas d'escalier, je comprends pas. Je fais le tour, je peux pas monter. Canarde. je monte. Les ennemis, ça arrivait. Pour prendre un terme que Éric Chamberlain avait dit dans un des épisodes de ces JUOP qu'on avait fait, il y a comme un garde-robe générateur d'ennemis. ça sortait, tout en tuait 12, il en revenait 15. Puis c'est là, ben oui, mais là, faut que je me sauve. Comment je me sauve? Je peux pas monter sur la plateforme, puis l'avion est là, je le vois, il est là, je peux pas monter dedans. Puis là, ça flash en haut, monter dans le Pélican, monter. Je veux monter dedans, je suis pas capable. Je suis en train de virer bleu. Puis là, je meurs, parce qu'à un moment donné, les Covenants ont décidé, ben gars, le Tarla s'en va pas, on va y envoyer deux, trois tanks, puis on va tirer dessus, puis finalement, je suis mort. Je refais la mission, puis là, c'était marqué, je vide assez d'ennemis, là, c'est marqué aller dans le Pélican pour quitter la zone. Puis là, il y avait un petit carré blanc qui me disait que c'était là, fallait que j'aille pour embarquer dans le Pélican, pour déclencher l'action de terminer le niveau. J'ai dit, OK, c'est là. Mais, tu sais, cette mission-là, si tu rentres pas dans le Pélican, il y a des ennemis qui arrivent à pocheter, fait que tu pourrais tuer, puis jamais finir. Fait que, tu sais, celui-là, t'aurais probablement plus de temps pour trouver tes crânes, parce que t'as toujours des ennemis, puis tant que tu rentres pas dans le Pélican, tant que tu vas pas dans le petit carré blanc qui dit que t'embarques dans le Pélican, tu peux rester là. Mais normalement, les missions, c'est retrouve tous tes soldats. Il y a une mission, il faut que tu ailles chercher des soldats qui ont été, bon, perdus dans différentes zones de la carte. Fait que tu pars avec tout seul. Puis là, tu tues des ennemis, tu montes. Là, à un moment donné, tu trouves deux soldats, là, ils te suivent, là, ils sont avec toi. Là, tu vas chercher d'autres soldats, ils te suivent, ils sont avec toi. Puis là, tu te ramasses avec une petite escouade à un moment donné. Faut que tu ailles au point pour finir la mission. Quand tu arrives là, la mission est finie. Donc, tu as des petites missions comme ça de différents types. Comme je disais, il y a une trentaine de missions, une dizaine de minutes. Calculer, le jeu peut durer à peu près 4, 5, 6 heures, dépendant de votre vitesse, comment vous jouez, vous prenez le temps. Calculez un 5 heures, mettons, là, puis ça va être bon. Fait que c'est comme 3 heures de plus que le jeu à 35$ de Daniel. Ouais, fait que tu sais, c'est le fun, c'est dans l'univers des Halo. C'est un univers qu'on connaît, un univers qu'on a appris à aimer avec le temps. C'est une belle twist d'avoir fait ça avec une vue isométrique. Ça fait changement des first person. Ça me rappelle aussi des vieux jeux que je jouais dans le temps où on mettait souvent des vues isométriques. Moi, je trouve ça le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais continuer à le jouer. Puis j'y donne un beau 8 sur 10.
Oh, c'est une belle note.
Je pense que ça vaut à peine.
Question de même, vu que c'est un jeu qui avait des origines mobiles, c'est souvent le cas, mais y a-t-il dans celui-là des mini-transactions, des choses comme ça, pour aller chercher de l'argent des poches du joueur?
Tu m'écoutais-tu quand je parlais? Je t'ai dit que tu pouvais acheter de l'argent pour... tu pouvais acheter de l'argent avec de l'argent pour acheter des armes? T'écoutais pas? Tu faisais quoi?
J'ai en train de faire bien des affaires. Non, mais.
Ouais, faut qu'on se parle en dehors des zones, parce que là, ça marche plus. Oui, il y a des microtransactions. C'est la seule chose que je trouve plate.
Moi, je mets mon cerveau à off hein, quand tu parles. Fait que...
Non, tu mets ton cerveau à off toujours. Il faudrait que tu te rappelles de le rallumer des fois.
Des fois.
Mais. Non, c'est ça. Fait que c'est bon, la musique est intéressante, même si ma femme elle me regardait à mon nez, ça te tente-tu de baisser le son? Parce que t'as des musiques un peu à la Halo, là, tu sais, la musique qui est comme orchestrale. Fait que c'est bien fait. On n'a pas lésiné sur la qualité des graphismes. C'est quand même beau, c'est bien fait. Les décors sont beaux, c'est coloré. On n'a pas chômé pour nous donner un jeu qui avait de l'allure. Fait que moi, je pense qu'un 8 sur 10, ça vaut la peine. Vous pouvez jouer sur Windows. Vous pouvez jouer sur votre PC si ça vous tente avec un point and click. Je ne sais pas si la manette est compatible. J'imagine que oui. Mais on sent bien les contrôles sur la Xbox. Ça a bien été traduit dans le jeu. Là, ça se contrôle très bien. Il n'y a pas de problème. On peut ramasser des armes. On fait X quand on est à côté d'une arme. On la ramasse. On lâche notre autre. Tirer tout ça, ça se fait super bien. On a vraiment l'impression de jouer dans un jeu de Halo. C'est les mêmes commandes que dans un jeu d'Halo. C'est juste que c'est la vue qui a été changée. Puis les missions sont intéressantes. C'est des petites missions courtes. Vous pouvez jouer à ça 15 minutes, faire une mission, deux missions, aller jouer, puis retourner plus tard. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, les cinématiques et tout ça. Ça vaut amplement son 8 sur 10. Je regarde les autres critiques, c'est tellement large. Là. Il y a eu un 54%. À quelque part, puis d'autres, ils ont des 8.5, puis des 9 sur 10, puis tout.
Ouais, il faut que ça cadre avec ton
C'est vraiment large, mais moi, je pense qu'un 7.5, 8, c'est une bonne note. Moi, je donne un bon 8. J'ai eu bien du plaisir. Ça a été bien fait. Il n'est pas trop cher à 15$ pour un 5-6 heures de jeu. Vous pouvez jouer en ligne avec vos amis, c'est long. Téléchargez le démo. Si vous voulez, puis essayez-le. Ce qui est bien sur Xbox 360, tous les jeux d'arcade sont disponibles avec un démo. Vous downloadez le démo. Si vous l'aimez, vous l'achetez. Si vous ne l'aimez pas, vous passez votre tour. Mais si vous êtes fan de Halo, ça vous le prend, c'est certain. Vous allez avoir bien du plaisir.
J'écoutais, hein, j'avais saisi le bout. Tu peux acheter des armements, là, mais je n'avais pas catché que c'était de la vraie argent.
Ben oui, avec de la vraie argent.
Avec de la vraie argent.
Vrai de vrai.
Maintenant, un gars qui en a fait de la vraie argent, s'est fait mettre dehors de sa compagnie et rentrer dedans, refait de l'argent. Steve Jobs, et c'est Daniel qui va nous en parler alors qu'il a écouté le film Jobs.
Oui, fait semaine dernière.
Ouais.
Avec d'autres films, mais on n'en parlera pas parce qu'on a failli s'estimer. En fait, on s'est estimé.
En dehors des ordres, ouais.
Oui, donc Jobs, c'est pas un film qui est récent, mais j'ai loué l'édition Blu-ray récemment. Et puis, je voulais en parler parce que, je suis en train de lire La Brique, qui est sa biographie écrite par Walter Isaacson, si je me rappelle bien. C'est toute une brique, mais c'est écrit un peu comme un roman. Fait que c'est intéressant. C'est une lecture que je devrais achever que d'ici mes 50 ans. Fait que, d'ici les 21 prochaines années, je devrais avoir fini. Mais je voulais voir, parce que j'avais entendu plusieurs critiques au niveau du film Jobs, entre autres que c'était beaucoup plus de la fiction que la vie réelle de Steve Jobs.
Ben, c'est toujours romancé, là, on s'entend. Sinon, il n'y a pas de film, tu sais.
Ouais, sauf que là, on se distançait beaucoup de la vie de Jobs, puis on sautait certains passages de sa vie. Et malheureusement, je dois être d'accord avec ses critiques.
Non, mais tu dis qu'il faut toujours que tu ramasses pour que ça fasse un film intéressant, là, mais si tu lis la biographie de Steve Jobs, la biographie autorisée là, de Steve Jobs, celui que... Justement, Isaacson, c'est quoi son nom? Ouais, je l'ai ça. Lu, mais j'ai pas je me rappelle pas son nom. Là.
Comme moi que la pièce dans le jeu, OK? Là, même
ouais,
phénomène.
Ouais. Mais si tu lis le livre de Steve Jobs, il n'y a pas besoin de romancer pour faire une histoire intéressante. Ce gars-là était tellement over the top.
Oui, mais je disais dans c'est le sens qu'à un moment donné, il faut que tu tricotes pour que ça rentre dans l'espace disponible d'un film. T'as pas le choix de faire des coupures, puis quand tu fais des coupures, veux pas, tu sautes des bouts. Quand tu sautes des bouts, ben t'as pas le choix de rafistoler pour que ça se tienne dans une histoire.
Fait ouais, mais toi, on va en reparler. Daniel va faire sa critique, puis on en reparlera après. C'est plus que ça, le film Jobs. C'est celui avec Ashton Kutcher, t'as vu?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais c'est parce que le problème avec le film Jobs, c'est qu'on saute vraiment des parties importante de la vie de Steve Jobs. Puis on s'arrête aussi à un événement qui date de 2001, c'est-à-dire le dévoilement du iPod. Donc on s'arrête là. Pourtant, il y a eu des événements plus marquants que ceux racontés dans le film qui ont marqué la vie de Steve Jobs. Puis il y a eu d'autres choses après le iPod. Tu sais, j'ai rien qu'à vous dire le iTunes Store ou le iPad. Il y a eu d'autres choses. Mais donc, tu sais, c'est ça. Le film effleure à peine ces événements-là. Donc, c'est un peu dommage. Puis, c'est ça. Donc, le film commence au niveau du dévoilement du iPod et c'est ce qui est dommage. On voit un peu, quand Steve Jobs a sorti le iPod aux gens d'Apple, et tout de suite on recule en arrière, on s'en va en 1974 quand Jobs était au Collège Reed. Et donc encore là, on commence pas au début de la vie de Steve Jobs, on commence vraiment quand il était au Collège Reed, donc quand il était à l'université, et l'université dont il se foutait pas qu'à peu près. On raconte pas vraiment beaucoup pourquoi qu'il s'en foutait de l'université. Par contre, on voit que c'était un espèce... Dans le livre, il appelle ça la contre-culture, mais Jobs, dans le fond, il adhérait pas aux conventions. Donc lui, il se promenait nu-pied, il puait, puis il s'en foutait. Donc,
la misère avec l'autorité aussi.
Ouais, beaucoup. Il y avait beaucoup de misère avec, comme tu dis, avec l'autorité. C'était un gars. Moi, Steve Jobs, j'en avais entendu parler, mais avant de lire sa bio, je pensais pas qu'il était comme ça. Tu sais, c'était un gars qui était excessif dans ce qu'il faisait. D'ailleurs, il dans sa jeunesse, il avait été rendu célèbre par ses régimes assez draconiens. Là. À un moment donné,
seulement aux fruits.
Les fruits. Mais à un moment donné, il mangeait juste des carottes, puis sa peau est devenue orange. C'était assez drôle. En tout cas, fait que, tu sais, il était très excessif. Il prenait du LSD aussi, de l'acide. D'ailleurs, il disait ouvertement que s'il avait pas pris d'acide, il aurait probablement pas connu la carrière qu'il a connue. Fait que, mais ça, on le voit un peu à travers le film. Mais dans sa jeunesse, on voit plus que c'était un gars qui était attiré par les arts. T'sais, lui, c'était très, il était très axé sur la beauté des choses. Sauf qu'il y a une scène un peu bizarre, là, en tout cas, où tu vois Ashton Kutcher, justement, qui incarne Steve Jobs. Puis là, il est dans un champ de blé, puis il caresse le blé, puis là, il danse dans le blé. Puis c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est pour montrer que c'est un artiste.
Explique-tu où il est dans ce temps-là? Parce qu'il est allé en Inde, il est allé... il avait été voir un gourou en Inde à un moment donné, puis tout ça. C'est-tu expliqué dans le film? Ou?
On le voit un peu, mais non, c'est...
C'est survolé, là. Tu clignes des yeux, puis tu peux le rater. Là. C'est vraiment court, là.
Oh, ouais, c'est super court. C'est un peu dommage, parce que son passage en Inde... l'a marqué, tu sais.
Ben c'est ce qui a façonné quasiment le Steve Jobs qu'on connaît. Là.
Ouais, absolument.
C'est là qu'il est parti sur sa lancée de manger juste des fruits, puis de un peu ce qui est devenu. Là.
Ouais, puis il est à la recherche de l'illumination aussi. Ouais. Mais non, ça, on le voit un peu à peine, tu sais. Vraiment, vraiment à peine, puis on s'attend pas à ça. Parce qu'on passe, puis encore là, son passage à Atari, on l'effleure aussi à peine. On se concentre plus au niveau de la création du Apple, puis du Apple II. Donc, on le voit avec Steve Wozniak... on le voit aussi quand il y a eu l'exposition de micro-informatique où justement il a dans le fond dévoilé au monde le Apple II. Donc c'est ce qui allait devenir la plateforme principale d'Apple pendant des années. Puis à travers ça, bon, ce que j'ai quand même aimé du film, c'est qu'on dépeint un Steve Jobs qui est pas toujours agréable. Hein? Steve Jobs pouvait être très mesquin, pour pas dire un autre terme.
Oh, il était méchant même.
Oh oui, il était détestable. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens que, bon, on le voit au début avec certaines personnes, dont Daniel Kottke, qui était... un ami qui le suivait dans ses espèces de quêtes d'illumination, puis en tout cas dans son esprit zen là. Donc il suivait là-dedans, et on voit Daniel Kottke chez Apple, et à un moment donné Steve Jobs va juste carrément le laisser de côté, même si ça avait été un ami très très proche au début. Donc il va même en venir à y donner un rendez-vous auquel il se pointera jamais, il parlera pas. Donc ça, j'avais trouvé ça intéressant. Même chose avec Steve Wozniak. À un moment donné, Steve Jobs va complètement être dans un autre monde, va être très dans le management d'Apple et va en venir à peu à peu oublier Steve Wozniak. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant au niveau comment qu'on a repris le personnage de Steve Jobs pour pas en faire l'espèce de demi-dieu là, que tout le monde le non, voit.
Il est loin d'être un dieu à la fin de ce film-là, là, de la façon qu'on nous le présente, loin d'être un dieu. Là.
Non, tu sais, on le voit, c'est un homme qui pensait que tout le monde autour de lui, c'était des nuls. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, moi, le film m'a fait penser à un fromage gruyère. Tu sais, c'est-à-dire que il est pas mauvais, il est même intéressant quand tu regardes le trailer, exemple, mais il est plein de trous. Donc, tu sais, c'est... Un des trous majeurs que j'ai trouvé, Steve Jobs puis Bill Gates, ils saillissaient. Tu sais, pas qu'à peu près. La seule affaire que tu vois, c'est qu'à un moment donné, Gates a volé un peu le concept de Steve Jobs au niveau du visuel, tu sais, d'interagir avec des fenêtres puis des choses comme ça en informatique. Et là, Steve Jobs te pète une coche au téléphone à Bill Gates, dit qu'il a des lunettes de psychopathe puis qu'il va dédier sa vie à y voler le 90 cents de chaque pièce qu'il va faire avec Microsoft. Sauf qu'on n'explique pas ça.
Et c'est tout, hein? Puis on revient pas là-dessus, on n'a pas de résultante à ça.
Non, on n'explique pas que Gates aussi avait un mépris de Steve Jobs. Steve Jobs méprisait Bill Gates parce que, à cause de son apparence physique, mais Bill Gates, lui, méprisait Steve Jobs parce qu'il n'était pas capable de concevoir un programme. Donc, tu sais, ça, on l'effleure. On se concentre beaucoup plus sur le Apple puis le Mac que tout le reste.
On y effleure-tu le fait que Steve Jobs a ramassé son idée de souris puis d'interface graphique chez Xerox?
Non, pas tout.
C'est comme majeur?
Non, du tout. ça, on n'en parle même pas, là, pour te dire. Pas tout.
Daniel, as-tu dit qu'il y avait des trous dans ce film-là?
Non, mais ça, c'est un trou majeur, parce que l'inspiration vient de là.
Oui, mais écoute, ça, on n'en parle pas pantoute. On parle de Lisa, là, qui était son ordinateur dans lequel il a failli faire crouler à Apple parce qu'il engrangeait tout l'argent. Ça, on en parle.
Qui a nommé du nom de sa fille.
Sa fille qui a rejeté.
S'est jamais occupée, ouais, c'est ça.
Ouais, ben ça, on en parle un peu. Par exemple, tu sais, quand tu disais que Steve Jobs était carrément méchant avec le monde, à un moment donné, tu vois sa blonde de l'époque, là. Je me rappelle, c'est Brennan, je pense, son nom de famille, en tout cas. Tu le vois, là, elle dit qu'elle est enceinte, puis tout, puis Jobs, il est comme, ben, c'est ton problème, là. Puis ça veut pas dire que c'est mon enfant, puis là, il se met à sortir des statistiques pour démontrer qu'il est pas nécessairement le père, puis en tout cas, tu sais, ça, on le voit qu'il rejette sa blonde, puis son enfant, comme son père biologique l'avait fait avec lui. Mais c'est tout, tu sais. Le reste est vraiment concentré sur le fait que Steve Jobs a été floué par certains collaborateurs, dont John Sculley, donc Monsieur Pepsi, donc qui a fini par voler la job de Jobs.
Ouais, il était ami jusqu'à temps qu'il vole sa job chez Apple. Chez Apple.
C'est ouais. Ça.
Ça vaut la peine de... c'est une raison valable.
En effet. Non, mais tu sais... Puis il y a d'autres choses aussi au niveau du film qui cadrent pas. Il y a certains événements qu'on raconte dans le film qui sont pas vraiment passés comme ça. Exemple, t'avais Mike... Kakura, en tout cas quelque chose de même, qui a été le premier investisseur majeur de chez Apple, donc qui a investi 250 000 $. Sauf que de la façon qu'on le dépeint dans le film, comment il est arrivé dans le garage de Steve Jobs, comment qu'il y a eu des négociations, tout, c'est pas ça qui s'est passé dans la vraie vie. Donc ça, c'est pour moi, c'est un manque quand même important.
Si je me rappelle bien, dans la biographie, il n'a pas revu une scène de ce qu'a investi ce gars-là, hein? Je me rappelle bien.
Non, je pense pas que c'est lui.
Jobs, il avait pas joué un tour à un des gars. Il avait investi dans Apple, puis finalement, ils ont ri d'en face à la dernière minute. Ça me semble, c'est quoi la géographie. C'est peut-être pas lui, par exemple. Là.
Ouais, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas lui. Mike, je m'en rappelle plus son nom de famille. Mais lui, il avait revu la couleur de son argent, okay. Pas qu'à peu près. Même chose quand Steve Wozniak a quitté Apple. On dit dans le film que, bon, Wozniak s'en va voir Jobs, puis lui dit qu'il quitte, puis là, les deux pleurent, puis oh mon Dieu, que c'est émouvant.
Ça n'a pas été ça, en fait.
C'est pas ça qui s'est passé dans la vraie vie. Donc, tu sais, ça, j'ai trouvé ça aussi... En tout cas, c'est un manque pour moi. Quand Steve Jobs s'est fait mettre dehors d'Apple, on parle très peu de la suite des choses. Donc, on parle pas de NEXT.
Next, ouais.
Next, la compagnie qu'il a fondée. On parle pas de Pixar. Donc, on se précipite directement sur le fait qu'il a été recourtisé pour réintégrer Apple. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça dommage. C'est des gros fossés, c'est des gros trous, finalement. Donc, c'est un gros fromage gruyère. C'est ce qui est dommage avec ce film-là. Par contre, je dois souligner la belle performance des acteurs. Ashton Kutcher en premier. Je pense qu'il a bien repris le personnage de Steve Jobs jusqu'à ses mimiques. Steve Jobs avait une façon assez particulière de marcher. Ashton Kutcher l'a bien repris. Même chose pour les autres acteurs. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà des maquillages, on a vraiment cherché à prendre des acteurs qui ressemblaient vraiment aux...
On voit des images à la fin. Là, il y a un montage durant le générique. Puis
ouais.
Ouais, vraiment, on a côté représentation, là, visage puis style des personnes. On est là.
Oui, vraiment. L'autre fois, je parlais de Louis Cyr avec Antoine Bertrand.
Oui, c'est vrai.
Ça ressemble à ça, tu sais, on y croit au personnage, on croit au jeu des acteurs. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Celui qui m'a le plus surpris, c'est John Scully. L'acteur qui incarne John Scully ressemble pas qu'à peu près au vrai. Donc chapeau au niveau de la réalisation, au niveau du casting, ça a été très très bien fait. Mais pour le reste, c'est un film intéressant.
As-tu été diverti? Parce que moi, j'ai vu les trous. En fait, il y en a certains que j'ai pas vu, que je me suis pas rendu compte. Mais le film, tu sais, je le lâchais pas. Là, je me suis pas dit, c'est plate, il y a trop de trous, je débarque. Non, tu sais, j'ai continué. J'avais du plaisir à suivre l'évolution, même si je savais que c'était pas mot pour mot ou chacune des étapes de la vie de Steve Jobs n'était pas réellement bien représentée. Je trouvais que le film avait quand même quelque chose. C'est un film qui est intéressant.
C'est ça que je disais. Dans le fond, on faut du fromage gruyère. C'est pas mauvais. Tu sais, donc...
Hey, j'écoutais, OK, là?
Oui, je sais que t'écoutais. Mais toi,
pour une fois.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas haï ça, honnêtement. Tu sais, j'ai passé un bon moment avec ce film-là, mais c'est clair que si vous connaissez l'histoire de Steve Jobs, ou pire que vous avez lu le livre, oubliez ça, vous allez avoir la même réaction que Steve Wozniak, qui avait émis son opinion envers le film après sa sortie, qui avait dit que c'était une œuvre de fiction, là, que ça représentait pas la vraie vie de Steve Jobs. Donc, c'est sûr que si vous connaissez sa vie, si vous attendez à une réplique exacte de toutes les événements de sa vie, incluant ses moments marquants, vous allez être déçu. Ça, c'est sûr, parce qu'on se concentre vraiment sur les deux Apple, sur le Mac, puis sur le retour de Steve Jobs avec Apple. Je vous le dis, on effleure juste au début le iPod, puis il y a certains moments là, importants de la vie de Steve Jobs qu'on a, je sais pas, peut-être volontairement sauté. C'est sûr que ce gars-là a eu une vie assez remplie. Là. Faire un film sur sa vie, c'est pas une mince tâche, mais je pense qu'on aurait pu quand même montrer certains passages de sa vie plus importants, en tout cas, ou marquants, tu sais, juste l'affaire de Xerox avec la souris, là. On aurait pu.
Oui, il y a des choix qui ont été faits. Hein.
Ouais.
Tu sais, on s'est effleuré le fait que c'est un enfant adopté et qu'il l'a pas su nécessairement au début.
Non. Pas tout.
C'est un peu ce qui a causé sa rage à l'intérieur, le fait qu'il ait été abandonné par ses parents.
Oui, c'est ça. Non.
Puis il en parle pas en tout. Je veux dire, c'est ce qui a forgé le caractère de Steve Jobs, puis t'en parles même pas dans. OK, je veux dire, il va sortir un autre film. La biographie. Officiel va être mis en film. Je pense que c'est Sony qui a acheté les droits, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, ça va être fait. Je pense que ça devrait être un meilleur film parce qu'on va se baser sur la réalité. Puis des fois, quand tu dis la réalité dépasse la fiction, là, Steve Jobs, c'est un personnage comme ça.
Ah oui, mais vraiment. Mais ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant au niveau du film Jobs dans le sens que tu regardes le film puis tu te dis ouais, Steve Jobs, ça devait être tout un personnage, puis c'en était tout un, mm-hmm. là, tu sais. C'est un gars là qui il croyait à son affaire, puis c'était son affaire. Puis le reste, si vous êtes pas d'accord, ben mangez de la M, tu sais. Too bad for you, c'est moi qui ai raison, puis je trouvais ça intéressant aussi qu'on mette quand même beaucoup d'emphase sur le fait que Steve Jobs était vraiment intéressé par le souci des détails. Le souci des détails, c'était comme primordial pour lui. Puis c'était plus important de la simplicité puis de la beauté que la performance. Donc ouais. ça, on le met quand même bien en évidence dans le film. Fait que tu sais, comme Jean-Benoît il dit, c'est pas un mauvais film, c'est un bon moment à passer, mais c'est clair qu'il faut pas s'attendre à une réplique exacte de la vie de Steve.
C'est un bon film, mais une mauvaise biographie.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Ça me fait un peu penser au film de Louis C, tu sais. Il y a des trous. Il y a vraiment des gros trous. Fait que, dans le fond, mais je vous le dis, c'est pas un mauvais film. J'ai pas haï ça. Même que, après l'avoir vu, j'ai fait, je sais pas, peut-être que je me l'achèterais éventuellement. Ah, tu sais, quand okay. il va être un peu moins cher. Mais j'ai un dilemme avec ce film-là. Je l'ai pas haï. Mais je ne l'ai pas adoré non plus.
Donne-nous une note, tu vas nous arriver avec un 5 pile dans le milieu.
Non, pas un 5. Je mettrais plus un genre de 7.
Ah,
7
okay.
sur 10. Ouais,
pas parfait, mais avec certaines qualités quand même.
Oui, non, il y a des qualités, ce film-là, c'est clair. Là. Juste au niveau du travail des acteurs, c'est une méchante qualité. Là.
Oui.
Mais c'est clair qu'il y a des trous là. Mais je pense que pour quelqu'un qui connaît pas partout Steve Jobs, qui part pas avec des idées, ok, ils vont montrer ça, ben il va passer un bon moment.
Ouais, c'est un film fait pour les gens qui le connaissent pas.
Ouais, exact.
Donc tous ceux qui iront probablement pas le voir en se disant ben je le connais pas. C'est drôle, hein? C'est...
Ben, tu sais, c'est parce que dans le fond, on a mis de l'avant les passages de la vie de Steve Jobs que le monde connaisse. Tu sais, globalement, là, genre, OK, tu penses à Steve Jobs, tu penses à Mac, tu penses à Apple, tu sais. Ça, on a mis ça de l'avant. Puis le reste, ben, les passages moins connus, on les a comme tossés.
Ouais. C'est
un film ouais. grand public.
Ouais, c'est ça.
Parlant d'un personnage plus grand que nature, j'y vais avec ma critique de jeu de mon côté, avec Batman The Video Game. C'est sur la NES. Pour ceux qui pensent là, que les jeux de super-héros ont toujours été mauvais, à part depuis quelques années avec la nouvelle trilogie des Arkham de Batman, que là, ça a recommencé à être bon, avoir un petit peu d'espoir au bout du tunnel. Ben, sachez que le premier Batman sur NES était pas piqué des verres. Un excellent jeu. Je vais expliquer un petit peu le comment je me le suis procuré. Je suis pas nécessairement le plus gros fan de rétro gaming. Je suis pas un collectionneur. J'ai peut-être entre 40 et 50 jeux de rétro gaming, mais malgré tout, je me considère pas comme un collectionneur. Moi, ce que je vais chercher comme jeu, c'est des jeux à lesquels j'ai joué quand j'étais jeune.
Donc, bon, t'es pas un papa cassette.
Non, c'est ça. Bon ou pas bon, ça importe peu. Je veux le souvenir qui vient avec. Ceux que j'ai jamais joué, je m'en fous pas mal, OK? Sauf celui-là. C'est le seul jeu que j'ai été acheté pour ses qualités de jeu parce que je voulais le découvrir et c'est un 10$ bien investi. D'ailleurs, magasinez ça. Il y a différents sites, les marchés aux puces, les ventes de garage. Si vous êtes capable de mettre la main sur ce jeu-là, autour de 10$, voire moins, vous êtes chanceux et n'hésitez pas. C'était développé et édité par Sunsoft et c'est sorti en 1990, en février pour être plus précis, du côté des États-Unis. Il y a même une version sur Game Boy qui était offerte de ce jeu-là. De par les contraintes physiques de la console et de la manette, on s'entend que ce n'est pas le Batman avec le plus d'options. On peut baisser, on peut sauter, on peut frapper, un peu comme à la Mortal Kombat là, avec les deux niveaux là. Niveau au torse puis niveau aux jambes en se pliant. Sinon, ben on a des armes, on a un boomerang, on a on a trois types d'armement. On a un boomerang, un pistolet et un shuriken.
Excuse-moi là.
Vas-y.
On appelle ça un batarang.
Un batarang, vas-y, ok, batarang.
Inculte que tu es.
Bon.
Batidio.
Et chacune de ces armes-là, le batarang va utiliser un point, le pistolet 2 et le shuriken 3. Et ces points-là.
Écoutez, c'est pas pire.
Ouais, hein, j'essaie de m'améliorer. Je suis loin d'être parfait, mais je tends à le devenir tranquillement, pas vite. J'ai beaucoup de marge de manœuvre, vous me direz. J'ai de l'espace pour m'améliorer, mais je tends à la perfection.
Ouais, c'est bon de se garder de l'espace. Là-dessus, continue.
Donc, ces fameux points-là d'armes, on va les récupérer sur les ennemis qu'on va battre. On va récupérer aussi des points de vie, parce qu'à chaque fois qu'on se fait toucher, c'est un point de notre barre de vie, une barre de vie qui compte 10 coups. Et vous allez voir que parfois, vous n'en aurez pas trop, parce que le jeu, ça commence assez tranquillement. Première fois, vous allez toucher. Vous allez trouver quand même assez dur, vous allez mourir dans les tableaux assez régulièrement, mais quand on apprend les tableaux par cœur, c'est pas de l'intelligence artificielle très très développée, il n'y a pas de génération aléatoire des ennemis, non, ils sont tout le temps à mes places, fait qu'on va apprendre le jeu par cœur, puis après ça, c'est pas trop compliqué. Le jeu est assez simple dans sa mécanique, assez simple aussi dans ses déplacements, dans ce qu'on demande de faire. C'est un plateforme aventure où on doit... un petit peu de labyrinthe, là, un petit peu, il n'y a rien d'énorme, se rendre jusqu'au boss des différents niveaux. Il y a 5 mondes, donc 5 boss, et ça se termine avec le Joker, qui est salement tough, il est vraiment dur. Il te touche 2 fois, puis t'es mort. C'est terminé, il y a un pistolet qui... on ne sait pas si on fait en quoi ces balles, là, mais elles sont vraiment très, très fortes. On va affronter Killer Moth, Machine Intelligence System, Electrocutioner, Dual Container Alarm, Firebug et après ça, le Joker. Il y a 5 mondes, 6 méchants, parce que dans le dernier, tu as le Firebug et tout de suite après, tu as le Joker. Ceci étant dit, les mondes sont assez variés. On va passer dans les égouts, dans des mondes plus informatisés, toujours très très sombres. La NES, c'est pas la console la plus puissante, on va se le dire. C'est une console extrêmement limitée au niveau graphique. On n'avait pas 260 millions de couleurs disponibles. On n'avait surtout pas des milliards de pixels non plus pour faire du méchant HD de la mort qui tue. Mais il est très très joli. C'est probablement avec Super Mario Bros. 3 l'un des jeux les plus beaux que la NES a. Si vous cherchez des images, allez, va sur Google. Cherche Batman de vidéo game. Va voir des images et sincèrement, là, tu te surprends à croire que c'est peut-être la Super NES tellement c'est joli. On arrive à la fin de la vie de la console et on s'en rend compte. Les développeurs connaissaient la machine, savaient comment aller chercher le maximum de capacité. Parce qu'on a fait un petit tour de passe-passe. C'est que au lieu de remplir les objets, c'est comme si la couleur ne servait qu'à faire les ombres sur ceux-ci. Et ce qui normalement devrait être la majorité de l'espace des objets, ce qui devrait être éclairé, est comme inversé, ce qui permet d'avoir des détails assez précis sur les designs des objets, tout en ayant énormément de noir pour compenser. Donc, ça permet de faire un petit tour de passe-passe et de générer des très, très belles images. Batman est capable de faire des wall jumps. Il saute, après ça, il s'accroche, puis il jump de l'autre côté. Capable de courir, capable de sauter. Probablement, le plus gros défaut de la jouabilité de ce jeu-là, c'est que Batman ne saute pas comme tous les humains. Batman a besoin de se pencher un petit peu, prendre un élan et sauter. Il y a comme un délai. Tu peux sursauter, puis t'as comme une fraction de seconde avant qu'il décolle son mouvement. C'est à prendre en compte. Quand on veut éviter des ennemis, côté timing, c'est pas évident. Pour le reste, c'est très, très fluide. Ça fonctionne super bien. On a 3 armes, on a 2 boutons. On en a un pour sauter, un pour frapper. 3 armes, on a coup de poing plus les 3 armes. Comment on fait pour sélectionner les armes? On pèse sur Start. Et Select va devenir le Start pour mettre sur le jeu en pause. Je trouve ça intéressant qu'on y ait été de cette façon-là. Parce que si on avait eu à utiliser Select, c'est comme le bouton le plus loin. Donc ça aurait compliqué la tâche. On a juste inversé. Merci, bonsoir, on vient de régler le problème. Même si c'est pas dans les habitudes du joueur, ça arrive que ma blonde, elle m'appelle. Hey, j'ai le temps de payer. Puis je suppose. Mais non, le jeu continue, puis je suis en train de mourir. Là, parce que j'avais juste changé d'arme au lieu de mettre sur pause. Le jeu n'est pas nécessairement très long. Comme à peu près n'importe quel jeu de NES, on s'entend que c'est jamais les jeux les plus longs de l'univers. Quand tu connais les niveaux, ça devient même très, très facile. C'est de le découvrir, le jeu qui est plaisant pour la durée de vie. Parce qu'une fois que tu le connais, ça va très, très vite. Dans les choses... Dans les choses un petit peu plus négatives, je dirais que il y a un monstre grenouille qui est vraiment chiant. On est dans un niveau dans les égouts. Et ce bonhomme-là saute partout. Il saute vraiment très, très haut. T'es pas capable de l'éviter par-dessus parce que il est trop haut. Il te saute, il te fait mal. Puis, quand tu dépenses tes armements, quand tu meurs, ils reviennent pas. Là. Ce que t'as dépensé est dépensé. Donc, l'attaquer au point, pas évident. Donc, vaut mieux se sauver que de l'attaquer, ce gars-là. On le voit dans le troisième monde. Puis c'est bien correct. Pas plus que ça. On le voit juste dans cette place-là. Puis c'est bien en masse. Cool la variété des ennemis aussi. Les monstres, les ennemis qu'on va affronter. C'est souvent les mêmes qui reviennent selon les thématiques. Mais ça fonctionne très, très bien. Et la durée de vie, quand on connaît le jeu, là, ça se fait extrêmement rapidement. Il y a des speed games qui se font quelque chose comme en 9 minutes quand on est vraiment, vraiment vite, là, sans cheater, là, sans traverser les murs, sans faire la même. Juste le temps du jeu bien fait, là, sans anicroche, en 9 minutes. Donc quand tu le connais, ça va très, très vite. Je vous dirais que c'est probablement dans les plus grands classiques de la NES. C'est un jeu à avoir dans sa collection pour toutes les bonnes raisons qu'il l'entoure, le très très peu de défauts qu'il a. Et moi, je vais y aller avec un solide 9 sur 10 pour ce petit jeu.
Pas là, attention à ça.
Ouais. Ben, tu sais, pour un jeu NES, là, si on compare NES pour NES là, et non pas avec ce qui s'est fait par après, là. C'est énorme. C'est très, très beau comme jeu. C'est un titre vraiment à posséder. Puis en plus, c'est pas très cher.
OK. Ouais, c'est bon.
Donc, voilà pour ma critique. Un beau petit neuf. C'est le fun. Jeu NES. Je fais pas nécessairement des jeux rétro très, très souvent. C'est comme la première fois en plus. Mais celui-là, je pense qu'il m'a accroché au point d'avoir le goût de le traverser puis de vouloir le passer à travers au complet. Puis prendre la peine de le faire puis de le critiquer.
Ben, c'est bon jeu Batman avant les Arkham.
Ouais, écoute, il y a eu un passage à vide.
Ben, les jeux super-héros de qualité, on pouvait compter sur nos...
C'est ça, tu sais.
On peut encore les compter sur le doigt d'une main parce qu'il y a juste 3 Arkham.
Ben, il n'y avait pas le Binox, le Spider-Man?
Ouais, Spider-Man. Bon? Ouais, Spider-Man est bien aussi chez Binox.
Ben, il y en a eu deux que je considère très bons. Edge of Time était moyen. Était plus limité, mettons.
Ouais.
Mais j'avais bien aimé Shattered Dimensions puis Ultimate Spider-Man.
Oui, vraiment.
Shattered Dimensions était vraiment... Ça a amené une nouvelle mécanique.
Ouais,
jouer c'était 4 versions de Spider-Man différents qu'on jouait, là.
Ouais.
C'était vraiment intéressant. C'est un must. Si vous avez pas joué à ça, c'est un must.
Je regardais l'autre jour sur mon compte Steam les heures que j'ai joué à mes différents jeux dans ma bibliothèque. Et Marvel Super Heroes, Lego Marvel, j'ai fait quelque chose comme genre 70 heures pour me monter à 96% du jeu complété. Fait que tu sais, même si, Daniel, comme tu racontais dans ta critique, il y a des limitations de jeu là, il est loin d'être parfait. J'ai eu du fun, puis j'ai eu le goût de le jouer autant que ça. Fait qu'il doit avoir certaines qualités. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu.
Ah, ben, ça, je te dirais, c'est le propre des jeux Lego. Sauf que quand t'en joues à chaque année, voire même à chaque couple de mois, ben, tu finis par te tanner.
Ah non, c'est clair.
C'est toujours la même mécanique, là.
66,5 heures, pour être précis. Donc, j'approche les 70 heures sur Lego Marvel.
Mais avoue que c'est pas pire quand même pour un jeu que maintenant tu peux te procurer pour quoi 40$ à peu près.
Ah, il est descendu pas cher très, très rapidement. Là.
C'est ça, tu sais.
Il était 49. Pendant le temps des fêtes, il est tombé, je pense, à 29 un moment donné au Boxing Day. Je l'ai pas commandé.
Mais toi, je sais que tu en as joué à plusieurs. Je pense que toi, tu serais dans le genre, dans la catégorie de ceux écœurés.
Ouais, mais c'est des jeux qu'on joue, moi et ma femme ensemble, on joue en couple à ce jeu-là. Fait qu'on va passer à travers, on va faire toutes les missions, puis après ça, on va toutes les refaire, qu'on a débarré tous les bonhommes pour aller chercher toutes les affaires cachées, puis tout ça. Moi, Lego Star Wars, The Complete Saga, il est fini à 100%, là, les 6 films, là. Fait qu'on a fini ça à 100%, on a fini la plupart des jeux de Lego, ils ont fini à 100%. Ça veut dire tout trouvé, tout débarré, puis tous les succès, puis tout ça, on les a tout fait. Fait que pour nous, c'est un investissement, c'est pas juste une dépense. On le fait au complet, puis on va rejouer. Fait que 70-80 heures sur un jeu comme ça, on le fait.
Mais je te le promets, là, tu n'arriveras pas à 100% ce jeu-là, à moins que tu sois un génie. Là, il y a une course de bolide téléguidée là, sur un toit quelque part. Je suis pas capable. Parce que, comme je racontais, les contrôles s'inversent selon quel bout du véhicule est au devant, genre.
OK.
Je veux pas t'écœurer, Jean-Benoît, mais je pense que je sais de quoi tu parles, puis je pense que je l'ai réussi.
Ah ouais, ben écoute, tant mieux. Bravo, écoute, tu mérites une médaille, quelque chose de même, là.
Non, pas vraiment, parce que moi, je suis rendu bloqué. Ben en fait, c'est ce qui m'a fait lâcher le jeu et qui a failli le transformer en frisbee aussi, là. Mais il y a une quête à un moment donné, c'est celui qui protège les portails là, dans le monde de Thor,
je m'en rappelle
plus son nom.
Ouais.
En tout cas, il te demande d'aller déglacer, en tout cas, des citoyens que Loki a congelés.
Okay.
Honnêtement, j'en ai juste trouvé un, j'ai jamais trouvé les autres. J'espère que c'est pas un bug, parce que ça me ferait sérieusement...
Ça se peut que ce soit ça... Moi, ça a bien fonctionné. Là. C'est vraiment la course de petits chars que si le véhicule est rendu qui pointe vers le bas, ben pour aller vers l'avant, c'est en bas. Pour aller sur la gauche, ben ça devient la droite. Tu sais, ça inverse les contrôles, mais tu sais jamais quand est-ce que les contrôles inversent parce que tu sais, sur un joystick, tu n'es pas avec la croix directionnelle. Avec la croix directionnelle, à la limite, c'est un petit peu déjà plus facile à comprendre quand est-ce que le changement de position se fait. Mais là, au joystick, tu le sais juste pas. Là. Tu essaies d'aller vers la gauche, tu tournes vers la gauche, tu tournes vers la gauche. Quand le véhicule est rendu à, je sais pas, mettons, son virage, il se fait à 90 degrés. Mettons, à 55 degrés, les contrôles switch. Mais c'est parce que quand tu switches, là, t'es rendu, tu pèses plus dans le bon sens, ça, selon où est-ce que le véhicule est rendu. Là.
Ça me fait penser un peu au contrôle du vol. C'est dégueulasse.
Ouais, non, c'est très, très ordinaire. Moi, j'ai découvert, genre, après 60 heures, qu'il y avait une double vitesse sur le vol.
Oh.
mais ça, c'est toi.
Mais tu sais, non, mais j'arrivais dans les courses, puis là, bon, je suis donc bien serré. Fait, là, j'essaie de bien prendre mes curves. Il y a des longs bouts de douette, puis là, je fais, voyez le temps défiler. Il doit y avoir un moyen, tu sais, d'accélérer
ouais,
sur
ça. Sur beau cet armure-là.
Fait que, non, c'est par erreur, j'ai comme crocheté deux fois, puis oh, il est comme décollé sur un bout. Je fais, oh, OK, il y avait ce bout-là.
Ouais, c'est parce qu'il faut que tu fasses comme quand on fait le podcast, tu nous écoutes. Quand tu joues à ce jeu-là, tu lis ce qui est écrit à l'écran parce qu'ils te le disent à un moment donné. Appuyer deux fois sur, je pense, c'est A pour accélérer.
À un moment donné, là, c'est parce qu'il donne tellement d'informations. Là, mais pas dans le sens de tellement d'informations comme ils disent beaucoup d'affaires, t'as beaucoup d'affaires à apprendre. Non, c'est plus dans le sens de ils te répètent tout le temps les mêmes affaires. Puis là, t'as le personnage qui dit « Faudrait peut-être aller à la Tour Stark. » Ouais, j'ai pas le goût, je fais des missions secondaires, lâche-moi. Puis il te le dit comme 120 fois, tu sais.
Bon, ouais, ça c'est fatigant aussi.
C'est un peu tannant, tu sais. Fait qu'à travers tout ça, ben, à un moment donné, tu te dis, ben, lui, je l'écoute plus quand il y a cette voix-là, tu sais. Puis à un moment donné, il dit, ben, pour voler, il y a un boss double pace sur le A. Ben, tu sais, je l'ai pas écouté parce que je pensais encore qu'il me disait, vous devez aller à la Tour Stark. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là.
C'est sûr que vous devez aller à la Tour Stark puis appuyer deux fois sur A pour aller plus vite.
Pareil.
Ça sonne exactement pareil.
Pareil.
Et même syllabe tout, ça n'a aucune différence phonétiquement.
Identique.
Ouais, pareil.
Ceci étant dit, parlant de syllabes et de phonétique, de façon d'écrire, je veux savoir, les boys, comment on communique avec vous sur le web? Ah ouais, mon chialeux, là, grincheux, là, désormais, vas-y, dis-nous si les gens veulent se plaindre là, de ta mauvaise humeur. Où vont-ils?
Sur Twitter, AskAlazormo. Puis sinon, ben il y a aussi mes sites qui déménagent tranquillement sur WordPress. Vous pouvez aller sur le nouveau site du podcastauto.ca qui a déménagé. Je vais déménager le restant du stock aussi. Puis vous pouvez aller sur realitéhog.com où je mets toutes les semaines les nouveaux shows. À date, il n'y a pas d'article écrit vraiment. Un jour, peut-être qu'on se décidera à mettre des choses là. Mais pour l'instant, si vous cherchez le podcast, c'est pas trop où aller, ben, vous pouvez aller là aussi. Puis c'est pas mal ça. Là, on travaille sur peut-être ramener le podcast auto. On donnera des nouvelles dans les prochaines semaines.
Des articles sur realitéhog.com. Va falloir apprendre à écrire avant, puis à ne plus être illettré. Ça viendra peut-être.
Ouais, c'est ça. Mais ça va être ta job.
Il y en a un qui sait écrire dans cette troupe, et c'est Daniel Caracella.
Ben, toi aussi, Jean-Benoît. Écoute, tu nous as sorti un texte pas clair, là. Il n'y a pas une... récemment, fait que j'ai été surpris. J'ai fait, Mon Dieu, je suis pas le seul. Je suis le seul. Voyons, je suis pas le seul lettré dans cette gang.
Surprise!
Franchement, Chabon, arrête. Tu m'as enlevé une partie de ma fierté.
Ce qui te rendait unique.
Oui, absolument. Non, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter à DracoADG, sinon sur Affaires de gars, où je publie quand même pas mal de textes et où Jean-Benoît, une fois de temps en temps, nous pop un texte. On sait pas trop de où. Bon. On sait pas trop pourquoi.
On sait pas trop si c'est intéressant.
Je sais même pas.
C'était intéressant, son dernier texte.
Mais écoute, j'ai quand même une quarantaine de partages sur Facebook, plus de 3000 clics, ça vaut à peine.
Oui, non, écoute, c'est un texte qui a été populaire, ça je disais. J'étais bien fier.
Mais il faut dire que mon numéro 1, je savais qu'il était pour attirer l'attention. OK, on va en parler. OK, on fait de la plug de même là, depuis le début. J'ai fait un article sur Affaires de gars pour parler des armes les plus hors de l'ordinaire, les plus bizarres, voire efficaces. Efficace étant la donnée secondaire dans la patente. J'ai parlé du dubstep gun dans le Saints Row 4 parce qu'on a tellement entendu parler que c'était devenu une raison d'acheter le jeu pour essayer ce gun-là. Même si c'est pas le plus puissant, même si c'est pas le plus drôle du jeu, c'est celui qui a fait le plus jaser et qui a amené des gens certainement à aller essayer ce jeu-là. Ensuite, j'ai parlé du Portal Gun de Portal qui est un jeu qui est une arme qui est devenue... Qui a fait sa place dans la culture populaire. On a vu des gens faire des vidéos reprendre en personnage réel qu'est-ce que ça pourrait donner le Portal Gun. On a même vu, et c'est la vidéo que je mettais dans l'article, prendre des jeux et les modifier pour inclure le Portal Gun comme Mario 1. On voit une cinématique, là, les deux premiers niveaux avec le Portal Gun. Ensuite, le Gravity Gun, parce que quoi de plus cool et efficace que de transformer tout en munitions puis en armes? Quand même efficace. Il fallait y penser. C'est niaiseux, mais il fallait y penser. Un gun qui fait que tout est une arme, fallait juste y penser. Le grappin dans Just Cause pour la totale liberté, l'association avec le parachute, c'est tellement efficace. Tu peux grimper des chars après des pylônes. Tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Il est solide comme ça se peut pas. Et au numéro 1, ce qui, je savais, était pour faire jaser, le chalancieux, que j'ai surnommé, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom, c'est d'utiliser un chat comme silencieux sur une arme.
Le chalancieux.
Tellement de mauvais goût, tellement peu efficace, parce qu'on s'entend qu'à force, ça couvre même plus le bruit. Mais tellement scandaleux, tellement pour toutes les raisons, le jeu Postal 2 duquel c'est tiré. Si vous pensez que GTA, c'est la mère de tous les scandales dans le domaine du jeu vidéo, ben sachez que sa grand-mère s'appelle Postal 2. Et comme si c'était pas assez, Uwebull l'a transmis en film et c'est devenu... instantanément un classique de la médiocrité. Alors, c'était mon petit top 5. Je me suis bien amusé.
Mais la prémisse de Postal et de Postal 2 était drôle parce que tu travaillais pour un studio de jeux vidéo, puis tu avais des gens qui venaient le jeu commence, les gens viennent faire du piquetage en avant du studio pour dire que la tes violence. Jeux sont violents, puis surtout tu sors dehors, la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils te varchent dessus, puis ils veulent te tuer
ouais.
avec leurs armes. Fait que c'est comme... OK. C'est ouais. une belle manière de combattre la violence oui. par la violence.
Exact. Et là, ouais. ben, je vous lance la question, les boys, tant qu'à en jaser, avez-vous des idées, une arme, quelque chose comme ça là, qui sort de l'ordinaire dans le jeu vidéo? Parce que j'ai pas du droit à tout, fait que je peux pas avoir la prétention que cette liste est exhaustive, là.
Ben écoute, moi je vais te dire, c'est une autre arme de Saints Row 4. C'est la. Je me rappelle plus son nom exact, mais c'est l'arme où tu tirais des rayons puis ça faisait. En fait, les parties du corps de ton ennemi grossissaient. Puis là, t'as, entre autres, les yeux, là, t'avais des immenses yeux, puis là, ton ennemi pétait après. j'ai trouvé ça avec le dubstep gun, là, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Là. Mais c'est deux armes là, que j'avais vraiment du fun à utiliser. Ça, là, sinon, pour le reste, Écoute, ça me vient pas là, mais ces deux armes-là de Saints Row 4, c'était quelque chose.
Ce jeu-là était une folie, là. Fait que déjà, c'était comme juste normal de trouver des armes de celui-là dans le.
Ben écoute, dans t'avais aussi. Ben t'avais la tentacule aussi.
Oui, c'est vrai.
La tentacule, en tout cas, qui était tirée de la culture japonaise. Fait que, bref, c'était un peu bizarre. Ça remplaçait le gros dildo de Saints Row 3.
Bon, c'est à essayer. Saints Row 4, là, si vous avez le goût de rire, c'est le fun. Luc, toi, t'as-tu un petit quelque chose?
Pas vraiment. Il n'y a rien qui me vient à l'idée.
Bon, t'es plate.
Ouais, je sais.
En plus d'être chialeux.
Ouais, et
allons-y avec moi. Où est-ce qu'on peut me retrouver sur le web? Ben, je gère le compte officiel de la réalité augmentée sur Twitter, @realitéhog. Les trois, on a les clés pour jaser avec vous autres sur le Facebook de la réalité augmentée, facebook.com/realitéhog. Cherchez-nous, vous allez nous trouver. Une adresse courriel aussi accessible, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. J'ai ma page à moi, là, mon compte à moi sur Twitter @gangj_b. Finalement, il n'y a pas grand façon de m'éviter sur le web, je suis partout.
Ouais, c'est dur à faire. Hey, juste de même pour plugger, parce que moi aussi pour montrer que je ne suis pas un total illettré, j'ai commencé à écrire pour le blog auto de Kijiji.
Oui.
Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, l'adresse n'est pas nécessairement facile, fait que je vais juste regarder mon compte Twitter à partir de demain, je vais vous spammer ça une couple de fois pour que les gens puissent aller voir. Là. Mais c'est kijijiblog.ca, puis il y a de la partie française. Là, mais je vais vous montrer. Je vais poster ça sur Twitter demain sur une couple de mes comptes, là, Podcast Auto et le mien.
Et c'est ainsi que se termine cette autre belle aventure qu'était la réalité augmentée. Merci les garnements.
Merci à toi d'avoir animé cet autre show.
Merci de ne pas souligner à nouveau que j'écoutais pas.
Non, ben là, ça, tout le monde le sait, Astor, c'est correct. Faut pas tourner le fer dans la plaie, comme on dit.
Alors, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là. À vous, chers auditeurs, encore une fois, vous êtes partie prenante de ce succès. On fait ça parce qu'on a du fun à le faire, mais aussi parce qu'il y a du monde qui écoute. S'il y a personne qui écoute, on tous met de pas parler puis pas faire de show. Fait que
on
merci.
Le ferait pareil.
Ouais, on est assez narcissique, hein? On le ferait pareil. Ouais,
j'aime ça m'écouter.
Oui, hein? Ouais. Tout ça pour dire de qu'on vous remercie et d'être au rendez-vous pour le prochain élément qui s'en vient éventuellement sur les internets. Merci et à une prochaine fois. Merci les boys.
Merci.
Salut.
Bye. Bye.